Et merci à toute l'équipe aussi de l'école de TEE. J'aimerais vraiment vous encourager, moi, à justement, comme je renchéris ce que Lise disait, de pouvoir vous impliquer dans le cas du dimanche et ne vous fiez pas uniquement à vos émotions. Peut-être vos émotions vous disent, Anne, mon ami, ça, c'est tellement pas pour moi, je suis pas habitué, j'ai jamais fait ça. Je me rappelle, moi, il y a plusieurs années, à Laval-Est, à l'église là-bas, il y avait une fille qui avait été demandée, à qui on avait demandé justement de s'impliquer. Elle s'appelait Caroline, dans l'école du dimanche pour enfants. Puis, mon amie, juste à l'idée, elle tremblait. Elle a dit, écoute, c'est tellement pas moi, j'ai jamais fait ça de ma vie, c'est pas pour moi, je serais pas à l'aise du tout. Elle avait peur. Puis, finalement, elle a accepté de prendre une chance. Elle a dit, je vais m'essayer. Je vais juste essayer. Puis ça se fait, ça. Alors, elle a commencé, puis mon amie est tombée en amour avec ça. Elle a continué, puis non seulement ça, après quelques années, elle s'est rendue tellement bien. Elle a découvert premièrement un talent qu'elle connaissait pas, qu'elle savait pas qu'elle avait, puis tellement qu'on est en train de la considérer pour prendre la surintendance de toute l'école du dimanche. Alors, imaginez-vous. Alors, moi, je vous encourage d'essayer. Impliquez-vous, mouillez-vous un peu, même si les émotions vous disent, là, aïe, 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 j'ai peur de ça. On va prendre soin de vous, on vous lancera pas comme ça aveuglément, on va vous entraîner, vous former, on va vous accompagner même. Ils font bien ça, sont habitués. Eh bien, premièrement, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue si vous êtes ici. Pour la première fois, on a de la visite à l'extérieur, la belle région de l'Estrie, la Sherbrooke et tout ça. Bienvenue à ceux qui nous écoutent aussi sur la toile. Ce matin, il y a plusieurs personnes, des femmes et des hommes, sont partis prendre le cours de la CSST. Protection, la sécurité au travail, parce que maintenant, c'est assez nouveau au Québec. On n'avait pas ça avant. Pendant des années, on pouvait aider dans la construction comme bénévole. Mais maintenant, on est obligé de suivre un cours de protection, la CSST. Donc, Dieu merci, il y a une cinquantaine de personnes qui suivent le cours. Et c'est 30 heures. Et moi, je vais le suivre la semaine prochaine et les deux prochaines fins de semaine. C'est ici tout près. D'ailleurs, si vous avez donné votre nom, pour suivre le cours et vous êtes cédulé pour la semaine prochaine, vous n'avez pas rempli encore le formulaire qu'on vous avait remis de remplir. Si vous voulez absolument, il va y avoir une table à la fin du service avec Dominique. Si vous voulez remettre votre formulaire, c'est nécessaire, c'est bien important. Donc, vous aurez compris qu'on a eu la réunion d'affaires la semaine dernière, puis on a voté, on a accepté à 99%, imaginez, le projet de la construction phase 1. Et ça fait quand même un petit bout de temps qu'on lève des fonds. On a lancé cette campagne de financement pour ramasser des fonds. On a un objectif global de 1 million de dollars qu'on a besoin de recevoir pour aller jusqu'à la phase 2. Cette phase qui consiste à avoir un grand auditorium, plusieurs places, des classes et tout ça. Mais en ce moment, on va amorcer la phase 1 qui consiste à agrandir l'entrée ici les deux ailes. Donc, ça, c'est un projet de à peu près 400 000 $. Les fonds sont déjà rentrés. Alors, Dieu merci pour ça. L'autre chose, on a accepté non seulement la phase 1 de la construction, mais on a accepté l'offre de TELUS aussi. TELUS, ils ont fait une demande pour louer une partie du terrain, 4 000 pieds carrés. Et ils vont nous donner un 12 000 $ par année, indexé au coût de la vie pour les prochaines années. On va essayer d'ajouter une clause aussi, ils sont ouverts à ça pour si jamais la question de santé et tout ça, ça se concrétisait. On devrait faire ça cette semaine. Le service d'été, Lise l'a mentionné tantôt que le service d'été, on va changer, on va revenir à un seul service le 26 juin prochain, alors dans 3 semaines, ça revient à 10 heures. Et pour l'occasion, on va avoir un beau service multiculturel et je pense même, on va avoir oui, on a ça ici. Et un repas communautaire va être servi à 11h30, alors après le service. Donc, vous êtes tous invités. Manquez pas ça, un beau service multiculturel. On aimerait aussi, comme projet au cours de l'été, vous inviter à aider les jeunes. On veut ramasser, à préparer des sacs pour la rentrée scolaire en septembre, comme on le fait depuis quelques années. Donc, si vous voulez donner pour ça, c'est un don désigné. Alors, vous l'écrivez simplement « entrée scolaire » dans l'enveloppe habituelle dont vous vous servez pour vos offrandes. Ça sera bien apprécié, les jeunes vont bien apprécier. Donc, si vous voulez, on va commencer, on va demander au Seigneur de bénir ce temps ensemble dans sa parole, d'accord? Seigneur, nous voulons te remercier pour ce temps ensemble, d'être en famille et pour cette Église et tout ce que tu fais à travers cette Église. Merci, Seigneur. Et Il y a beaucoup de choses à faire encore pour les prochaines années. Beaucoup de gens à atteindre avec l'Évangile. Alors, on te prie que ton Esprit Saint puisse faire une œuvre merveilleuse dans toute la région et toucher des cœurs. Comme tu l'as fait déjà avec plusieurs personnes ici, Seigneur, on te prie pour un réveil spirituel dans toute la région, que les gens découvrent la beauté de Jésus et du message de la croix, le message du sacrifice de Jésus à la croix. Et Seigneur, il y a des gens qui ont toutes sortes d'arrière-plans ici dans l'Assemblée, qui vivent toutes sortes de choses. On te prie que ton Esprit Saint ce matin fasse du bien à leur cœur, mette vraiment un baume sur leur cœur, les fortifie, les encourage, parce qu'on te demande ces choses, au nom de Jésus. Amen. J'en faisais allusion dans la prière, justement, il y a des gens ici, on vous rencontre ici et là, on a l'occasion vraiment de se connaître, certains parmi vous, parfois, vous venez partager ce que vous vivez, des expériences difficiles que vous vivez, des expériences douloureuses. Certains ici, vous êtes ici ce matin et en ce moment, ce que vous recherchez, ce dont vous avez besoin ces jours-ci à cause de la situation dans laquelle vous vous trouvez, ce que vous recherchez au fond de vous, vous aimeriez avoir un peu de joie parce que les nouvelles qui vous tombent dessus vous découragent et vous écrasent un petit peu. Il y en a d'autres en ce moment, ce que vous avez besoin, c'est un peu de paix. Vous savez, aujourd'hui, il y a la vie agitée, précipitée. On est toujours contre la montre et tout est vite, 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 on se dépêche. Alors, pour certains, vous, en ce moment, ce dont vous avez besoin, ce que vous aspirez à avoir trouvé un peu de paix, de calme dans votre cœur. Pour d'autres, vous recherchez l'amour. Vous voulez, et on veut tous être aimés, on veut tous avoir de l'amour. Et certains parmi vous, vous vivez un temps où vous aimeriez tellement être aimé. Alors que ce soit la joie, que ce soit la paix, que ce soit de l'amour, moi, j'aimerais vraiment vous dire ce matin, et c'est ce que les Écritures nous disent et ce qu'on va voir ce matin, c'est de vraiment revenir à Jésus. Que Jésus soit le centre de votre vie, parce que seul Jésus peut vraiment vous donner l'espoir dont vous avez besoin. L'amour que vous aspirez au fond de votre cœur. Seul Jésus peut vous donner cette joie indescriptible que la société ne peut pas nous donner. Jésus l'a dit d'ailleurs que sa joie, elle est parfaite. Elle va au-delà des circonstances. Elle remplit notre cœur d'un calme, d'une tranquillité. Elle procure un repos à notre âme. Et ça, c'est seulement le Seigneur Jésus peut nous procurer ça. Quelle que soit la situation et le besoin dans lequel vous allez vous trouver en ce moment. Et je sais que pour certains parmi vous, vous vivez des temps tellement lourds. Et on comprend ça. Et le Seigneur sait ce que vous vivez. Mais revenez au Seigneur. Et c'est le message que Paul va donner, de revenir au message de la croix. Imaginez, c'est quelque chose qui est vraiment bizarre, revenir au message de la croix. Premièrement, la croix dans notre société, ce n'est pas quelque chose de populaire. Tu commences à parler de la croix de Jésus-Christ à ton bureau, à ton travail. C'est très étrange, parler de la croix de Jésus. Mais c'est encore plus étrange dans le temps du Nouveau Testament. Juste pour vous aider à comprendre, à saisir un petit peu l'émotion qu'on pouvait avoir dans le temps, imaginez si vous entrez au bureau demain matin, vous travaillez peut-être au gouvernement fédéral, tout ça, la plupart des gens, je sais que quand je parle de ça, je vais accrocher quelques personnes qui travaillent là, c'est sûr, il y a tellement de gens, ça c'est une des choses qui m'a frappé quand je suis arrivé ici dans la région, le nombre de fonctionnaires, des gens qui travaillent au gouvernement, c'est incroyable. Alors, où que vous travaillez, imagine-toi là, tu travailles, tu rentres au bureau demain matin, tout d'un coup, il y a une femme ou un homme, un collègue de travail, bien, on va dire une femme, parce qu'on va parler de boucles d'oreilles, mettons qu'il y a une femme qui rentre au bureau avec des boucles d'oreilles, avec une image sur la boucle d'oreille de cette fumée, de cette nuée en forme d'un champignon, gros champignon, qu'on a vu, qu'on voit dans les documentaires quand ils ont largué la bombe à Hiroshima. Maintenant, tu vois quelqu'un rentrer, puis avec cette image-là, c'est les boucles d'oreille, puis tu dirais, qu'est-ce que c'est ça? Il y a une association, il y a une image grotesque qui nous vient en tête, il y a des souvenirs grotesques. Ou encore, imaginez quelqu'un d'autre porter un collier qui rentre au bureau avec l'image des tombeaux à Auschwitz. Ça serait scandaleux, c'est grotesque. Je me rappelle d'ailleurs, il y a plusieurs années, un de mes amis travaillait dans une boutique au centre-ville de Montréal, en région d'Outremont, pour Westmont. Et c'était une boutique, les propriétaires étaient des Juifs, et ils desservaient la communauté, pas juste juive, mais c'était des gens assez à l'aise. C'était dans le coin de Westmont, Outremont, ils desservaient la communauté là-bas. Et il y a une femme juive qui est entrée Et elle faisait le tour, elle voulait s'acheter une paire de souliers. Et c'était des souliers assez dispendieux. C'était des gens souvent millionnaires qui allaient acheter là. Ils étaient réputés pour ça, avoir des souliers assez de qualité. Et là, cette femme-là faisait des allées, les ranger pour voir la nouveauté. Et tout d'un coup, c'est une femme juive. Elle est arrivée devant une paire de souliers qu'elle trouvait, c'était une belle paire de souliers. Alors, elle les prend dans les mains pour s'apercevoir que c'est une compagnie allemande qui avait fabriqué ces souliers-là. Elle a pris, une femme distinguée, elle a pris cette paire de souliers, puis elle les a lancés à travers le magasin tellement elle était furieuse. Comment ça se fait que des propriétaires d'une boutique juive font la promotion de pour elle l'Allemagne, mais l'Allemagne, c'est pas le problème, c'est pas l'Allemagne, c'était ses souvenirs, évidemment, atroces des membres de sa famille qui étaient morts justement à la Seconde Guerre mondiale. Et vous savez, on pense à Auschwitz, où il y a eu plus de 1,1 million de personnes qui ont été de Juifs, 90% des Juifs qui ont été exterminés. Et ça l'évoquait des souvenirs incroyables. Mon père a vécu cette période-là en Europe. Il était en Angleterre et il a été marqué psychologiquement, marqué. Il a dû subir des électrochocs pour essayer d'enlever, essayer de guérir et tout ça. Il a été des grosses dépressions. Les gens sont sortis de là, ils ont été marqués, ceux qui étaient là à cette période-là. C'était très, très difficile. Donc, il y a des images comme ça qui évoquent des souvenirs atroces, grotesques. Et ce qu'il faut comprendre, c'est l'émotion, c'est le sentiment qu'on éprouvait à l'époque du Nouveau Testament en regard à la crucifixion, à cette forme d'exécution. Et là, je ne parle pas nécessairement de Jésus-Christ. On va arriver à ça tantôt. Mais juste la crucifixion, la peine capitale, la crucifixion, c'était quelque chose d'atroce. On n'en parlait même pas en famille, autour de la table. On nous recommandait d'ailleurs de ne pas parler de ça. On ne parle pas de ça. Premièrement, il n'y avait aucun citoyen romain à part de quelque chose d'un grand, grand criminel. Et encore là, ça prenait une décision de l'empereur lui-même à Rome. On ne crucifiait pas les citoyens romains. Seuls les barbares, les étrangers ou des esclaves ou quelques grands, très, très grands criminels subissaient la crucifixion. Mais pas de citoyens romains. C'était trop atroce. On ne parlait pas de la crucifixion. C'était mal vu, c'était grotesque comme image. Alors, vous imaginez les chrétiens maintenant qui arrivent et des gens qui se sont convertis au message de la croix et commencent à parler du message de l'Évangile, au message de la croix, l'émotion qu'il y avait là, le sentiment, la réaction que les gens avaient. C'était grotesque. Et d'ailleurs, à un point tel que les chrétiens de Corinthe ont commencé à être influencés, puis ont commencé à se distancer du message. Ils ont même commencé à mépriser un petit peu ce message-là. C'était pas en vogue, c'était pas au goût du jour, c'était pas in, c'était pas cool, c'est pas un sujet super cool, comme dirait ma petite fille. Changeons de message. Et on était habitué d'entendre des grands orateurs à Corinthe. Il y avait toute cette école d'art oratoire qui s'appelait les sophistes. Et on était habitué depuis haut comme trois pommes, comme on l'expliquait la semaine dernière. Ça faisait 400 ans depuis Athènes qu'on développait l'art de l'art oratoire. Et on entendait, on était habitué, on jugeait d'ailleurs. C'était la foule qui jugeait la qualité de l'art oratoire. On était habitué à ça. Alors là, haut comme trois pommes, tu étais éduqué dans l'art du discours. Et là, les gens, les chrétiens de Corinthe, influencés par le rejet du message de la croix, ont commencé à repousser Paul, à mépriser son message, à préférer un message qui serait plus à la mode. Alors, Paul va écrire sa lettre aux Corinthiens. Entre autres, pour ça, il y avait même des divisions en regard au message de l'Évangile. Il y avait des divisions dans l'Église. Il y avait des divisions pour plusieurs raisons dans l'Église de Corinthe, mais dont une, c'est qu'on rejetait, on se distançait un peu plus, de plus en plus, du message de la croix, du message de l'Évangile. Alors, Paul va réserver les quatre premiers chapitres de la lettre aux Corinthiens, premièrement pour les exhorter à s'unir, et non seulement ça, à montrer aux Corinthiens, aux chrétiens de Corinthe, que la puissance de conversion qui va convaincre les gens de venir au Seigneur Jésus-Christ ne repose pas comme on le croyait et comme le croyait l'art oratoire. L'art oratoire, comme on l'expliquait la semaine dernière, disait que c'était par la puissance du discours, l'habileté de formuler, faire des tournures de phrases, des jeux de mots et tout ça, que l'orateur réussissait à générer dans le cœur de celui qui écoutait de la foi, on va dire, mais sans être religieux, on parle de croire. Et là, on ne parle pas des chrétiens, on parle que dans le monde du discours oratoire, on disait que c'était par l'effort de l'orateur, tu étais un bon orateur, si tu réussissais à bâtir, à générer de la persuasion dans le cœur de celui qui t'écoutait, que ce soit un discours politique, et le mandat pour l'orateur était de te convaincre, de créer une persuasion dans ton cœur pour que tu suives un mouvement politique, tu étais un bon orateur. On mesurait la qualité d'un grand orateur par sa puissance. Et comme on disait la semaine dernière, ce mot « dunamis », la puissance de son discours pour générer une croyance, une conviction dans le cœur. Alors, Paul arrive et dit « absolument pas, ça ne marche pas de même » avec le message de l'Évangile. Avec le message de l'Évangile, c'est par la puissance de Dieu à travers la prédication. Une prédication qui, aux yeux des gens, est ridicule pour les gens de Corinthe. C'était scandaleux parler de la croix. Mais même si c'est illogique, Paul se voyait plutôt comme un annonceur, un héros, comme on avait dit, ces hommes qui avaient reçu le mandat du roi de juste annoncer ce qu'ils recevaient, la décision du roi. Et Paul se voyait comme un héros. Il dit, mon message ne change pas, c'est toujours le message de la croix. Et c'est Dieu qui opère, qui génère la foi dans le cœur des gens qui entendent le message de l'Évangile. Mais maintenant, Paul va continuer maintenant sur cette lancée-là, parce que non seulement que les incroyants, ceux qui ne croient pas, se convertiront par la puissance du Saint-Esprit à travers le message de l'Évangile, non seulement ça, c'est bon et c'est nécessaire pour le non-croyant, pour que ce soit une vraie conversion, une nouvelle naissance, mais nous aussi, comme enfants de Dieu, nous avons besoin de centrer nos vies autour du message de la croix. Et comme Tim Keller dit si souvent, et d'autres, le message de l'Évangile, c'est pas l'ABC de la vie chrétienne. C'est le A à Z de la vie chrétienne. Nous avons constamment besoin de revenir au message de la croix. Et Paul va donner trois raisons ici, dans ce passage. Trois raisons. Et c'est tellement important qu'on s'y arrête. Et regardez bien ce qu'il dit, premièrement, au verset 18. 1 Corinthiens 1, si vous voulez tourner, dans le premier chapitre, 1 Corinthiens 1, on l'a passé sur ces versets-là la semaine dernière, mais on va revenir dans les chapitres, on va se promener dans les chapitres 1 et chapitre 2 ce matin de 1 Corinthiens. Donc, 1 Corinthiens, regardez bien le verset 18, c'est vraiment un verset clé, 17 et 18, c'est un verset clé, deux versets très importants. Alors, 1 Corinthiens 1, verset 17, on va commencer au verset 17. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est Paul qui parle. C'est pour annoncer, alors proclamer, annoncer l'Évangile. Et cela sans recourir à la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas vidée de sa force. En d'autres mots, si les personnes viennent à Jésus uniquement sur la base des discours et qu'il n'y a pas cette opération du Saint-Esprit, qu'on enlève le message de la croix, on enlève ce message-là, ça ne fera pas des conversions. D'accord? Alors, ça enlève la force de la croix, c'est dans ce sens-là. En effet, verset 18, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent. En d'autres mots, une folie pour ceux qui refusent l'Évangile. Mais pour nous qui sommes sauvés, il est une puissance de Dieu. Et quelle assurance que ça nous donne de juste proclamer le message de l'Évangile. Et même qu'une personne soit athée. Bien des athées sont venus au Seigneur. Il y a des gens ici même qui nous ont donné leur témoignage lors des baptêmes. Ils étaient athées, ils ne croyaient pas du tout à Dieu. Et ils se sont convertis lorsqu'ils ont entendu le message de l'Évangile. Mais ça, c'est la puissance du Saint-Esprit. Alors, les Corinthiens s'éloignaient de plus en plus de la croix. Et ils se divisaient. Alors, Paul les exhorte. Il dit, écoute, unissez-vous. Unissez-vous. Et Paul va donner les raisons maintenant de s'unir autour de la croix. En fait, ce qu'il va commencer à dire, c'est qu'il va il va dire que le message de la croix divise toute l'humanité en deux camps. C'est pas compliqué. Il n'y en a pas trois, quatre, cinq, six, il y a deux camps. Il dit ceux qui croient en l'Évangile et ceux qui ne croient pas en l'Évangile. Comme on vient de le lire, verset 18, « Le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance de Dieu. » Deux camps, seulement deux camps. Et verset 19 continue en disant, « Du reste, il est écrit, « Je ferai disparaître la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse de ce monde, puisqu'à travers cette sagesse, le monde n'a pas connu Dieu en voyant sa sagesse. Il a plu à Dieu de sauver les croyants à travers la folie de la prédication. Maintenant, Dieu sait qu'on va avoir tendance à nous éloigner du message de la croix. C'était vrai pour les Corinthiens, c'est aussi vrai pour nous autres. La vie, ça bouge, etc. Puis tranquillement, ça prend pas de temps qu'on va commencer à se distancer du message de l'Évangile. Pourquoi ce matin, on va prendre la Sainte-Seine? Pourquoi pensez-vous, Jésus dit à ses disciples, lorsque vous prenez la Sainte-Seine, il dit, « Faites ceci en mémoire de moi. » Constamment, Jésus nous ramène la croix. Alors, Paul nous livre son message. Centrons nos vies sur Jésus. Premièrement, 23 raisons. En Jésus, on est privilégié. Quel privilège on a eu, quelle grâce on a reçue. Regardez bien verset 4. Alors, premier chapitre, verset 4 qui dit, « Je dis constamment à mon Dieu toute ma reconnaissance à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. » Et verset 9, il poursuit en disant, « Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé. » Dieu vous a appelé, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Et verset 30, toujours dans le même chapitre 1, « C'est grâce à lui que vous êtes en Jésus, lui qui est devenu, par la volonté de Dieu, notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur. » Il est question ici du salut qu'on a en Jésus-Christ. Jésus est allé à la croix prendre nos péchés sur lui afin qu'on soit sauvés. Imaginez ce que Paul est en train de dire dans ce seul verset, verset 30. Jésus est devenu notre sagesse. Il est devenu notre justice. En d'autres mots, nous avons été déclarés, en Jésus, nous sommes déclarés justes. Nous recevons la justice, la sagesse, la sainteté et nous sommes libérés. Dieu nous a sauvés et c'est une grâce. Nous avons obtenu la grâce. Une autre raison de centrer nos vies sur Jésus, c'est que nous connaissons maintenant Dieu. Paul va plus loin. Verset 5, toujours au premier chapitre, il dit, « En effet, en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses, en particulier en ce qui concerne la parole et la connaissance. » Vous savez comment se mesure la richesse? C'est dans la mesure qu'on connaît Dieu. C'est ce que la parole est en train de dire. La plupart des Corinthiens étaient des gens pauvres. Il y avait juste quelques riches, mais pas beaucoup. Et pourtant, Paul leur dit, « Vous êtes riches parce que vous connaissez Dieu. » Paul démontre comment le message de la croix divise l'humanité en deux groupes, les enfants de Dieu et ceux qui refusent de croire. Puis là, il va présenter trois contrastes. Premièrement, ceux qui reçoivent la sagesse de Dieu et ceux qui ne la reçoivent pas. 1 Corinthiens 2, alors on va lire cette portion des Écritures, 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 6 et jusqu'au verset 10, d'accord? Donc, dans le deuxième chapitre, là, verset 6. C'est pourtant bien une sagesse que nous enseignons parmi les hommes mûrs, mais une sagesse qui n'est pas de ce temps, ni des chefs de ce temps, qui sont voués à la destruction. Nous, nous annonçons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. Celle de Dieu, avant tous les temps, avait préparé d'avance pour notre gloire. Cette sagesse, aucun des chefs de ce temps ne l'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de la gloire. Mais comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé par son esprit, car l'esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu. Arrêtons là juste un instant. Ce que Paul nous dit essentiellement, c'est que les enfants de Dieu reçoivent et reconnaissent la vraie sagesse. Si c'est une folie, le message de la croix pour les gens de la société, en fait, c'est pas parce que c'est une folie, c'est parce qu'ils ne sont pas capables de saisir la beauté de l'Évangile. Et ce que Paul est en train de dire, les enfants de Dieu, eux, reçoivent et reconnaissent la vraie sagesse, celle qui est un don de Dieu. C'est pas parce qu'on est meilleur, c'est un don de Dieu. Et verset 9, il est dit, comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Ce verset 9, en fait, est une citation de deux passages dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe 24 et 25, plutôt 64 et 65. Paul est en train de dire que le message de la croix était en fait un secret dans l'Ancien Testament, comme un mystère. Et c'est vrai, c'est révélé ici et là, subtilement, mais le message de l'Évangile que Dieu avait déjà préparé d'avance, avant même la fondation du monde, va se réaliser vraiment lorsque Jésus se fait crucifier. C'est là que le mystère caché est révélé, à travers la croix. Et verset 10, Paul continue en disant, « Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé par son esprit, car l'esprit examine tout, même les profondeurs de la terre, les profondeurs de Dieu. » Alors, comment les enfants de Dieu ont pu voir et saisir la beauté de la croix? Comment on a pu voir le message de la croix comme étant la sagesse de Dieu? Qu'est-ce qui a fait ce déclic-là? Bien évidemment, ça nous emmène au deuxième contraste que Paul soulève ici. L'Esprit de Dieu et l'Esprit du monde. Verset 10 continue. Et verset 10 à verset 13, qui dit ceci. Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé par son Esprit, car l'Esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu. En effet, qui parmi les hommes connaît les pensées de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne peut connaître les pensées de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous avons reçu l'Esprit. Nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. Et nous en parlons, non avec les paroles qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec celles qu'enseigne l'Esprit Saint. Ainsi, nous employons un langage spirituel pour exprimer ce qui est spirituel. Quel grand Dieu on a! Non seulement il nous a sauvés, mais il nous a donné son Esprit Saint en nous pour nous aider, pour nous éclairer, pour illuminer les yeux de notre cœur. Car de lui-même, l'être humain ne peut pas, ne réussit pas à saisir la beauté de la croix, la beauté de l'Évangile. Ils vont trouver ça plate, ils vont trouver ça même de la folie. Ils ne saisissent pas ça. Verset 11 dit, en effet, « Qui parmi les hommes connaît les pensées de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne peut connaître les pensées de Dieu, ce n'est l'Esprit de Dieu. » Voici la logique que Paul est en train de dire ici. Moi, j'ai aucune espèce d'idée à quoi tu es en train de penser en ce moment. Dans ton esprit, là, à quoi tu es en train de penser. Ce serait vraiment intéressant là, de dire à quoi vous êtes en train de penser. Il y en a peut-être que vous êtes en train de penser à votre dîner, à vous penser à quel restaurant vous allez aller. Est-ce que tu as fermé les lumières? Est-ce que tu as barré la porte? Moi, il n'y a aucune manière que je puisse savoir à quoi tu es en train de penser en ce moment. Vrai? La seule personne qui sait, dans le fond, c'est toi. N'est-ce pas? Et c'est ça le point de Paul. C'est ça sa logique, c'est ça qu'il est en train de dire ici. Il dit, qui parmi les hommes connaît les pensées de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Seul toi, tu sais vraiment ce que tu penses. Maintenant, les jeunes célibataires aimeraient bien savoir ce que l'autre pense. Hein? Hein? C'est vrai, hein? Tu es là et tu dis, mon amie, je la trouve jolie, je la trouve belle. Qu'est-ce qu'elle pense en ce moment? Je viens de lui donner ça, je viens de donner un petit cadeau, je viens de lui dire que je suis peut-être un petit peu intéressé. Qu'est-ce qu'elle pense? Qu'est-ce que mon patron pense? Je veux aller négocier une augmentation de salaire. Qu'est-ce qu'il pense? S'il fait une demande, il dit absolument rien. Il y a un poker face. Qu'est-ce qu'il pense? En fait, c'est absolument impossible de savoir tant ou son temps qu'il ne parle pas. Parce que dans le fond, seulement lui ou elle sait ce qu'elle pense. Et c'est ça le point ici. Avec Dieu. Regardez bien ce qu'il dit. Qui parmi les hommes connaît les pensées de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne peut connaître les pensées de Dieu. Sinon, l'Esprit Saint qui est en Dieu. Vrai? C'est logique. Alors, par moi-même, il est absolument impossible de savoir ce que Dieu pense. Pour savoir ce que Dieu pense, il faudrait qu'il y ait comme un miracle que Dieu prenne son esprit et le place dans mon esprit. N'est-ce pas? Et c'est ça qu'il a fait. C'est le miracle que Dieu a fait pour ouvrir les yeux de mon cœur afin que je réalise, je vois le chef-d'œuvre de la croix. Et que là, je puisse commencer à voir que c'est finalement la sagesse, l'ultime sagesse de l'Évangile. C'est magnifique. Et ça, c'est un miracle. Ça nous emmène au troisième contraste. Alors, premièrement, verset 12 dit, « Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des paroles qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec celles qu'enseigne l'Esprit Saint. Ainsi, nous employons un langage spirituel pour exprimer les choses spirituelles. » Alors, on nous emmène maintenant au troisième contraste. Une personne naturelle et une personne spirituelle, au verset 14 jusqu'au verset 16. Regardez bien ce contraste-là. Qui dit, « Mais l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il est même incapable de le comprendre, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme dirigé par l'Esprit, au contraire, juge de tout, et n'est lui-même jugé par personne. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur et pourrait l'instruire? Or, nous, nous avons la pensée de Christ. » Maintenant, pourquoi l'homme naturel ne reçoit pas le message de l'Évangile? Mais premièrement, la personne naturelle, pour la personne naturelle, le message de la croix, c'est une folie. Il ne voit pas, absolument pas le chef-d'œuvre de la croix. L'homme naturel, verset 14, n'accepte pas ce qui vient de Dieu. Et c'est une folie pour lui. Deuxième raison, c'est que le message de la croix ne peut être saisi que spirituellement. Il est de même incapable de le comprendre, dit le verset 14, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Maintenant, le verset 15 qui suit dit ceci, « L'homme dirigé par l'Esprit, au contraire, juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur et pourrait l'instruire? Or, nous, nous avons la pensée de Christ. » D'accord? Qui veut dire quoi? Maintenant, il faut comprendre le verset 15 dans son contexte. Lorsqu'on dit que l'homme spirituel juge de tout, ça ne veut pas dire qu'on connaît tout. Absolument pas. Le tout, il faut le comprendre dans son contexte. Et c'est le tout des choses spirituelles que Paul vient de démontrer et de développer. Ce sont des choses spirituelles. Prenons l'exemple de la sainteté. La personne naturelle, c'est-à-dire celui qui n'a pas l'Esprit Saint, n'a pas l'Esprit de Dieu en lui, ne peut parler de la sainteté comme un enfant de Dieu qui a l'Esprit Saint en lui. Celui qui a l'Esprit comprend la profondeur du mal dans le monde, le péché. Le chrétien, en fait, a vécu les deux mondes. Nous étions des gens naturels, c'est-à-dire on n'avait pas l'Esprit avant, mais l'instant qu'on s'est converti, le Saint-Esprit est venu en nous. Donc, on a connu les deux mondes. On a les deux expériences. On sait ce que c'est que d'avoir la vision du monde sans l'Esprit Saint en nous. Et on sait ce que c'est d'avoir la vision du monde selon Dieu maintenant, parce qu'on a l'Esprit Saint en nous. Alors que l'homme naturel ne connaît qu'un seul monde. Alors, le chrétien peut, lui, parler de ses deux expériences parce qu'il a l'Esprit Saint en lui. Parfois, on se fait critiquer d'être étroit d'esprit des chrétiens. Mais Paul va dire le contraire ici. C'est tout à fait le contraire. Ceux qui sont étroits à l'esprit, c'est ceux qui n'ont pas l'Esprit Saint parce qu'ils n'ont qu'une seule expérience. Ils ne peuvent pas voir le monde et la profondeur du mal et avoir une vision du monde comme Dieu la présente et nous le révèle par son Esprit Saint. C'est comme demander à un aveugle, quelqu'un qui ne voit pas, de décrire la couleur rouge. C'est comme demander à quelqu'un qui n'entend pas d'être critique d'une chanson de l'art de la technique vocale d'Adèle. Elle n'entend pas, elle n'est pas capable, elle n'a pas la faculté, elle n'a pas ce que ça prend pour faire cette analyse. C'est la même chose que l'homme naturel qui n'a pas l'Esprit Saint. Il ne pourra jamais parler du péché ou de la sainteté, de la gloire de Dieu, de la beauté du message de l'Évangile, comme un enfant de Dieu va pouvoir le faire parce que nous avons l'Esprit Saint qui habite en nous. On a les deux mondes, le monde naturel, donc nous connaissons la pensée du monde, mais maintenant avec l'Esprit Saint, nous sommes capables de voir le monde comme Dieu le voit. Alors, d'un côté, on a la vision du monde, et de l'autre côté, on a la vision comme Dieu voit le monde. Nous avons les deux visions, donc on juge de tout. Dans ce sens-là, des choses spirituelles, on a les deux expériences. On peut parler maintenant de la beauté de la sainteté, on peut parler maintenant du plan du salut, la beauté, le chef-d'œuvre de la croix. On peut parler aussi ce que c'est que d'avoir cette conviction dans le cœur que nos péchés ont été pardonnés. Juste le pardon de Dieu, c'est les enfants de Dieu qui comprennent ça, qui ont vu ça, qui l'ont expérimenté. On peut parler de Jésus crucifié comme personne ne peut le faire. On peut parler des joies d'être pardonné par Dieu. On sait ce que c'est. On sait ce que c'est que quelqu'un d'autre est mort pour nous autres, cette sensation d'amour dans le fond de son cœur, de se sentir aimé comme personne d'autre parce que quelqu'un nous a tellement aimé qu'il a livré sa vie pour nous autres. Nous, on peut en parler, vrai? Nous, on sait ce que c'est. On peut expliquer la différence entre ce monde et ce monde à venir et qu'est-ce que ça aurait de l'air, le monde à venir. Où il n'y aurait plus de pleurs, plus de larmes, plus de tristesse. C'est ce monde que Dieu est en train de préparer pour chacun de ses enfants et qu'on va entrer dedans. On peut en parler un peu parce que premièrement, on voit aussi un échantillon dans les frères et les sœurs de ce que c'est que la sanctification tranquillement où les gens sont changés de plus en plus à l'image de Jésus-Christ. On sait ce qui s'en vient. On voit un peu un échantillonnage. On peut en parler comme personne ne peut le faire. Notre vision est beaucoup plus grande, c'est la vision de Dieu. Alors, qui est étroit d'esprit? Ce n'est pas les enfants de Dieu, au contraire. Les gens qui n'ont pas le Seigneur Jésus, qui refusent, qui rejettent le Seigneur Jésus, eux ont une étroitesse d'esprit parce qu'ils ne le peuvent pas. Au naturel, on était là, nous aussi. Ce n'est pas parce qu'on est bon, comme on l'a vu depuis le début, c'est une grâce de Dieu, un don de Dieu. Et ceux qui rejettent l'Évangile seront jugés un jour d'avoir rejeté l'Évangile. Ils sont responsables. C'est une méconnaissance coupable. C'est à cause de l'état du cœur pécheur qu'ils repoussent l'Évangile. Ils seront redevables devant Dieu pour ça. Alors, mes chers amis, comme enfants de Dieu, on n'a absolument rien à envier au monde et désirer là, et espérer trouver de quoi dans le monde qui va nous rendre heureux, ça se trouve à la croix. Le bonheur, la joie, c'est à la croix que ça se trouve. C'est pour ça que Paul peut dire au chapitre 1, verset 5, « Bon sang, vous avez été comblés de richesses. » Alors, on veut centrer nos vies sur Jésus car on a reçu la grâce d'être sauvés et par le Saint-Esprit, on connaît maintenant Dieu. Et on a maintenant la puissance de pouvoir changer, puis de grandir, puis de devenir de meilleur en meilleur. On a la capacité de le faire. Avez-vous remarqué ce que Paul dit au verset 1? Il commence avec la puissance. Il ne commence pas avec la sagesse. D'ailleurs, il va arriver seulement au verset 23 à parler de la sagesse. Déjà, au verset 18, il va dire « Le message de la croix est la puissance de Dieu. » Et c'est avec raison. Il fait par exprès. Et parce que Paul ne veut pas que les gens se trompent et s'imaginent que Paul est en train d'introduire simplement. Il y avait tellement de philosophie grecque et tout ça, et l'art oratoire et tout ça. Paul ne veut pas qu'on s'imagine qu'il est simplement en train d'ajouter une nouvelle philosophie. Là. Un peu un autre message ben zen là, qui s'ajoute dans le tas de messages qui se promenaient. Absolument pas. Il commence avec la puissance de Dieu. Les gens Ils ne veulent pas que les gens se confondent le message de l'Évangile. C'est plus que ça, l'Évangile. C'est vraiment une puissance de transformation de Dieu. Là où l'être humain faillit à rencontrer ses besoins, Dieu intervient, il est intervenu pour nous transformer. Nous sommes incapables de changer par nous-mêmes, incapables de régler le problème du mal et du péché dans notre vie. On est sans force. Un peu grotesque comme image, pardonnez-moi, c'est Spurgeon qui l'a dit, mais il dit, c'est à peu près comme, je pense pas que c'est Spurgeon, parce que ça n'existait pas, je pense, c'est, je sais pas qui l'a dit, mais en tout cas, il dit, quelqu'un a dit, c'est comme à peu près un 25 sous, il dit, d'un côté, t'as une bête, l'autre côté, t'as une reine. Dieu fait cette opération-là dans notre cœur. Il va créer un temple dans notre cœur où on va commencer à adorer Dieu, alors qu'avant, on blasphémait, on voulait rien savoir de Dieu. Qu'est-ce qui crée ce changement-là dans notre cœur? C'est la puissance du Saint-Esprit. Le plus brillant des êtres humains n'a pas réussi à accomplir ce que Dieu accomplit à la croix. Les gens pensent ne pas avoir besoin de Dieu. Je me rappelle, moi, une personne il m'a déjà dit, moi, la foi, moi, c'est une béquille pour les gens faibles. Et les gens veulent se débrouiller, veulent mener leur vie comme ils l'entendent. Et avez-vous remarqué comment, dans à travers le monde, combien de livres, surtout en Amérique du Nord, combien de livres qui s'écrivent sur l'amélioration de soi, l'épanouissement de soi, puis, tu sais, suivez telles étapes, votre vie a changé, devenez tout ce que vous pouvez devenir. Et là, c'est plein de livres sur l'amélioration de soi, l'épanouissement de soi et tout ça. Suivez ces quelques étapes, puis vous allez vous épanouir, vous allez découvrir le bonheur et tout ça. C'est plein de livres autour de nous qui nous montrent comment vivre. Avez-vous remarqué ça? Eh bien, il y a un grand philosophe du nom de Jacob Needleman qui a enseigné pendant plusieurs années à l'Université de San Francisco. Il a dit ceci. Il a écrit un livre, d'ailleurs. Voici le titre du livre. Pas très encourageant. D'ailleurs, quand il a sorti son livre, il a fait des interviews. Puis les intervieweurs ne savaient pas trop quoi faire avec lui. C'était vraiment pas positif. Il a écrit un livre qui s'appelle « Why can't we be good? » Pourquoi on ne peut pas être bon? Et lors des entrevues, tout ça, il a dit ceci, il dit « Les sociologues écrivent des livres sur la façon dont on devrait vivre. Les thérapeutes écrivent des livres sur la façon dont on devrait vivre. Les politiciens écrivent des livres sur la façon dont on devrait vivre. Tout le monde travaille fort pour nous dire comment on devrait vivre. Mais, dit Needleman. Ils oublient juste une chose. Tout le monde sait pas mal comment ils devraient vivre. C'est juste qu'ils sont incapables de le faire. Tout le monde sait ce qu'ils devraient faire, mais personne n'a la force de le faire. Il poursuit en disant, c'est le plus grand mystère de l'humanité. Et c'est le plus grand problème de l'humanité. Pourquoi on écrit une prolifération de livres disant au monde, vous devriez vivre comme ceci ou comme cela? Les gens savent quoi faire, dit-il, mais ils ne sont pas capables de le faire. C'est impossible. On n'a pas encore trouvé. Eh bien, là, les intervieweurs ne savaient pas trop quoi faire avec lui. On n'a pas trouvé le secret pour changer. Eh bien, le Seigneur nous dit, c'est possible, avec la puissance du Seigneur, par la croix. La puissance de changer, de nous améliorer, la puissance de nous rendre heureux, de nous faire connaître une joie indescriptible alors qu'on va passer à travers des épreuves tellement douloureuses, tellement lourdes. Ce miracle de pouvoir rester tranquille, avoir un calme dans la paix, en paix, alors qu'on traverse des épreuves et tout ça. Ce miracle-là de pouvoir rester dans la joie et malgré un chagrin, une tristesse, ce miracle-là est opéré par la puissance du Saint-Esprit dans nos vies. De pouvoir nous changer aussi afin qu'on devienne de plus en plus comme le caractère parfait de Jésus-Christ. Ça, c'est la puissance du Saint-Esprit. C'est la puissance que le Saint-Esprit va placer dans nos vies, puis va nous rendre meilleurs, de meilleur en meilleur. 1:8 dit, c'est lui aussi qui vous affermira jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables le jour de notre Seigneur Jésus. Alors, C'est pour ça que Paul et le Seigneur, à travers la plume de Paul, nous exhortent, nous lancent ce message si important de revenir à la croix, revenir au message de la croix, centrer nos vies sur Jésus, avec nos enfants, la façon qu'on élève nos enfants, dans notre vie de couple, toujours revenir au message de l'Évangile. Parce qu'on a reçu la grâce d'être sauvé. On a le Saint-Esprit qui nous permet de connaître Dieu comme personne d'autre. Et on a la puissance pour nous faire grandir. Dans son livre intitulé « La prière, s'émerveiller dans l'intimité de Dieu », Tim Keller, qui est maintenant française, vient de sortir en 2016, Tim Keller raconte quand il a fait la rencontre d'un jeune homme, qui était à l'église d'ailleurs depuis qu'il était jeune. Il allait à l'église depuis plusieurs années. Mais même s'il allait à l'église depuis sa jeunesse, on raconte qu'il restait toujours extrêmement inquiet et craintif. Il y a beaucoup de crainte et d'inquiétude. Un jour, il a entendu vraiment le message de l'Évangile qui était présenté très clairement. Puis là, ça a cliqué. Il y a quelque chose qui s'est passé en lui. Le Saint-Esprit a fait cliquer. Là, il a compris. Ses yeux sont ouverts. Il a pris conscience que toute sa vie, dans le fond, il avait juste été moralisateur puis moraliste. Il faut, tu dois. Puis, tu sais, cette idée-là de négocier avec Dieu que si je fais tant de bonnes œuvres, il va être bon avec moi. Si je fais ça, si je ne suis pas bon, il ne sera pas bon avec moi. Et que l'amour de Dieu, pour moi, dépend de si je suis bon, ce que je fais. Et constamment comme ça, et il a réalisé ça en comprenant le message vraiment de l'Évangile, que toute sa vie vivait toujours dans ces négociations-là. Alors, grâce à l'Évangile, il a réalisé premièrement l'ampleur et la profondeur de son égocentrisme, comment il était centré sur lui-même, de son entêtement spirituel devant son péché, puis que c'était absolument impossible de faire les œuvres qu'il s'imaginait devoir faire pour plaire à Dieu. Il a également pris conscience que l'amour de Dieu pour lui était totalement immérité et que le prix de cette grâce a été payé par Jésus-Christ à la croix. Et c'était inimaginable. Et là, il a saisi ce chef-d'œuvre de la croix. Et pour la première fois de sa vie, il s'est senti attiré par ce Dieu-là. Il a commencé à découvrir une joie qu'il n'avait jamais connue auparavant. Il a commencé à découvrir, à prendre plaisir en Dieu. Au lieu d'être une religion qui l'écrasait, tout d'un coup, il découvre à travers la beauté de l'Évangile le message de la croix. Il découvrait le plaisir que l'on peut prendre en Dieu. Et c'est l'Évangile qui a fait ça, par la puissance du Saint-Esprit. Voici ce qu'il dit. Avec le temps, je suis devenu de moins en moins inquiet, de plus en plus courageux. Dans le passé, dit-il, dire de Dieu qu'il était mon trésor me semblait si mielleux et irréel. Désormais, il l'est vraiment devenu. Et je ne me fais plus de soucis comme auparavant sur l'argent et tout ça. Et Keller conclut, en tirant une conclusion ici, là, à travers ce témoignage, cet homme, cette rencontre qu'il a faite avec lui. Il dit, nous sommes face à un choix. Si nous voulons être certains de vivre cette vision plus tard, nous devons la vivre par la foi maintenant. Si nous voulons être libérés de la peur, de l'ambition, de la cupidité, de la convoitise, des addictions et du vide intérieur, nous devons apprendre à méditer sur Christ jusqu'à ce que sa gloire se répande dans nos âmes. Amen. Comme c'est différent. Alors, centrons nos vies sur Jésus. C'est ça qu'on veut faire ce matin. On veut se rappeler du sacrifice de Jésus à la croix en prenant cette sainte scène. Et on vous encourage, si vous avez été baptisés, né de nouveau, baptisés, on vous encourage à prendre la sainte scène ce matin. Alors, j'inviterai les frères à venir ici pour distribuer les éléments.